Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
C'est parti, on va voir si j'ai toujours perdu la main ou si j'y arrive toujours pas plus qu'avant. Spotzol, le podcast du gravel et du bikepacking, épisode 165, ici Richard Delhomme. Après une interruption forcée, le podcast est de retour. Avant de vous présenter mon invité du jour, un véritable héros, je dois vous avoir... Tu vois, j'ai perdu la main, j'y arrivais pas avant, finalement ça va, tout va bien. J'y arrivais pas avant, j'y arrive toujours pas. Un véritable héros, voilà. Je dois vous avertir que le rythme du podcast va changer un peu. Mon emploi du temps s'est considérablement alourdi avec le podcast susnommé la chaîne YouTube. D'ailleurs, vous pouvez voir au passage la décoration atelier vélo et relais routier un 31 décembre, qui plaît énormément à Raoul, visiblement. Le magazine, d'ailleurs le numéro 3 de Planète Gravel est actuellement en kiosque, je vous le recommande, il est super bien. Le coaching avec ma quinzaine d'athlètes, une formation en préparation mentale que je débute en ce moment, rouler pour assouvir ma soif de vengeance après Badlands, m'occuper de Ellie 5 ans et Harry 2 ans et demi. On pourrait dire que les journées ne font que 24 heures, mais quand même, elles font 24 heures, donc une organisation minutieuse va être de mise. Mon invité que vous pouvez voir, alors, si vous allez faire un tour sur Instagram et que vous cherchez la publication, non mais je t'avais dit que j'arriverais à la placer, que vous arrivez à trouver la publication du 12 septembre, vous constaterez qu'il a l'air d'avoir 22 ans avec son t-shirt jaune, on dirait un petit poussin. Mais en fait, non, pas du tout. Il venait de passer la ligne d'arrivée de Badlands, il a absolument pas 22 ans. C'est absolument plus un petit poussin, depuis un bon moment. Mais n'empêche que Raoul est un héros. Et parfois, c'est bon d'avoir un héros ou une héroïne. Et mon héros, à moi, c'est Raoul. Alors, pas la peine de vous exciter. Ne cherchez pas, Raoul n'est pas un champion. Ça, je pense que tu le savais déjà. Mais c'est un héros. Ouais. Car sur Badlands, il lui aura fallu seulement 1,5 km pour casser son câble de dérailleur. À ce stade-là, soyons honnêtes, la plupart d'entre nous auraient abandonné. Mais Raoul, non. Raoul, c'est pas le même genre. Raoul, il a fait demi-tour. Bon, il n'y avait pas longtemps. Hein. En même temps, il y avait 1,5 km, donc c'est pas non plus un exploit surhumain. Il a cherché un magasin qui était tous fermés en ce dimanche à Grenade, en Andalousie. Hein. Il a fait 50 km en bus pour réparer, pour trouver un magasin pour réparer et enfin repartir avec 20 heures de retard. Et malgré tout, il a remonté du monde. Malgré tout, il n'a pas fait dernier. Je sais, ça ne veut rien dire. Et il a terminé Badlands en 110 heures, 30 minutes. Donc, sous vos applaudissements, Raoul Eyamba Agebo. Et par avance, toutes mes excuses pour la mauvaise prononciation de ton nom de famille. Voilà, bonjour Raoul.
Bonjour Richard. Écoute, au niveau du nom, la prononciation, elle est juste parfaite. Quelques petites précisions, effectivement, au niveau de Badlands, c'est pas au bout de 1,5 km, mais au bout du 10e kilomètre que j'ai commencé à avoir des soucis avec mon dérailleur arrière. Et donc à partir de là, tu pars sur Badlands, tu prépares ta course, la course à laquelle tu rêves depuis 8-9 mois, et le jour J, alors que tu penses que normalement tout devrait bien se passer, tout se passe très bien effectivement pour les autres, sauf pour moi à ce moment-là. Donc là, c'est la grosse cata, quoi. Parce qu'au bout du 10e kilomètre sur Badlands, ça part très vite. Il y a des cailloux, ça monte, ça descend dès le départ. T'as plus rien au niveau du shifter. Le câble de dérailleur qui est complètement désaxé et rien ne répond. Là, tu te dis, je suis pas bien. Ou tu te dis, mon premier truc, c'est non, je suis dans un rêve, je dors encore. C'est pas possible. En fait, si, c'était possible. Et donc là, effectivement, que faire? on continue, heureusement, là, c'était, ça montait, ça descendait, donc on était à chaque fois sur des montées, donc j'étais sur le plus grand plateau, donc tout à gauche. Et là, je me suis dit, je vais continuer comme ça, en moulinant, jusqu'à ce que je retrouve la route. Et effectivement, 20 km plus loin, donc j'avais fait au 10e kilomètre, tu vois, problème, je m'aperçois qu'il y a un problème. Et ben là, je continue pendant 10 km, parce que je m'étais arrêté pour voir où était la route, pour regagner ensuite, pour faire quelque chose, pour m'arrêter, pour vraiment regarder, quoi. Et puis, j'étais pas fier, et puis même complètement dépité, parce que tu vois, tout le monde passait. Et tout le monde passait comme des bombes et tout le monde te demande ça va, everything fine, tout bon, mais en fait là tu te dis non ça va pas, et puis après chacun poursuit sa route et les gens voilà ils continuent leur aventure, hein, parce que pour moi j'étais parti là-dedans pour vraiment vivre l'aventure. C'était pas, je prenais pas du tout ça comme une course, hein. J'ai pas la carrure d'un coursier ou d'un gars qui va terminer dans les 20 premiers à Badlands, bien au contraire. Mais c'était vraiment vivre le moment avec les autres, tu vois, et pas vivre un instant tout seul. Sauf que là, à un moment donné, quand tu vois passer le dernier, tu te dis, là, je suis pas bien, je vais vivre un instant tout seul, mais qu'est-ce que je vais faire? Et donc voilà. Alors après, avec ma courte expérience, parce que moi je suis vraiment un rookie, hein, un rookie du vélo, un rookie du gravel. Ça fait 2 ans, hein, que j'ai commencé le gravel. Je connaissais absolument rien au vélo avant, donc tout ce qui est réparation, j'avais réparation. Comment s'en sortir avec les premiers moyens du bord sur une course et sur un vélo. Tout ça, j'avais appris. J'ai eu l'aide effectivement aussi des conseils précieux de certaines personnes, dont un que tu connais bien, notamment Sofiane. Je sais pas si tu le connais, je crois que tu le connais. Sofiane Seyli qui m'a vraiment apporté beaucoup d'aide et ça m'a vraiment fait plaisir. Et puis de très bons conseils quelques mois avant la course. Et puis d'autres aussi personnes. Donc avec ces éléments là, c'était déjà au niveau de mon câble de dérailleur. Bon ben là, tu sors tes outils, tu te mets sur le bord de la route, tu sors tes outils et t'essaies de voir, de retendre et de replacer ton câble de dérailleur. Sauf que malgré ça, ben rien n'y faisait. Et tu vois, sur une course comme ça, longue distance, où chacun roule pour lui, où c'est sa propre aventure, ben là, tu vois, il y a quand même cette entraide et cette solidarité, puisqu'il y a 2-3 personnes, un Anglais et puis un Français, il roulait en paire, Marc-Antoine, qui d'ailleurs est actuellement sur... À la Réunion, hein, puisqu'il a fait la diagonale des fous, tu vois, juste quelques mois après, quelques semaines après Badlands. Donc bref, lui il s'est quand même assez arrêté pour me dire bon, qu'est-ce qui se passe. Bon, je lui explique, et puis là on s'aperçoit bien que il y a plus rien à faire, et que on a beau tendre et retendre le câble de dérailleur, c'est quasiment mort. Je peux plus aller ailleurs, je peux plus continuer comme ça. Donc là, je prends la décision de regagner Grenade. Et sauf que à Grenade, la course aurait démarré un lundi matin à 8h. Ça va, j'avais pas de souci à me faire. Je savais qu'il y avait des Talleyrands, donc c'est des mécaniciens qui m'auraient aidé. Sauf que là, il y en avait pas du tout. Donc que faire? Ben, tu te dis, c'est pas possible. C'est un rêve. La course que j'ai préparée, ou l'aventure que j'ai préparée depuis des mois, ça peut pas s'achever comme ça. C'est juste pas possible. Et là, tu vois, je repense à la fameuse phrase d'un certain Churchill qui dit, en fait, là où se trouve une volonté, ben il existe un chemin. Tu vois, cette phrase là, je l'ai toujours en tête. Et là, je me dis, ben ouais, mon chemin, ça va être de repartir à Grenade et de me poser, de réfléchir. Donc là, j'ai pris mon ami Google, et j'ai tapé mécanicien à Grenade. Donc il y en avait 5 ou 6, sauf que les 5 ou 6, bah, ils sont fermés. J'ai quand même fait le tour par doute des différentes échoppes, des différents magasins. Bah, effectivement, tout était fermé, rien à faire. Donc là, bah, je repars à l'hôtel. l'hôtel, ben là, ils sont surpris, ils me voient arriver. Je fais, mais qu'est-ce qui se passe? Je leur montre mes mains remplies de lubrifiant, et puis je leur dis, ben voilà, j'ai un gros problème. Il faut que je regarde, est-ce que je peux... Donc là, obligé de reprendre une chambre, parce que forcément, je l'avais rendue. Tu vois, à 6 à 8 heures du matin, quand j'étais parti, j'ai tout rendu. J'avais juste laissé mon sac vélo. Donc là, je reprends toutes mes affaires, je reprends une chambre, parce que je me dis, si je trouve rien, ben, je vais être bloqué là et repartir le lendemain. Entre-temps, j'appelle quand même les organisateurs pour leur dire, vous inquiétez pas, je suis redescendu à Grenade. Donc là, effectivement, c'est David, je crois, que l'organisateur que j'ai au téléphone, il me dit, ouais, je vois effectivement, je vois ta puce, je vois enfin ton tracker, je vois que t'es reparti à Grenade, qu'est-ce qui se passe, il y a un problème. Donc moi, je lui explique, il me dit, mais qu'est-ce qu'on fait? DNF, pas DNF. Je lui fais, non, surtout pas DNF. Tu laisses comme ça, je vais réparer et je reprends la route le lendemain. Il fait, bon, ben, ok, bon courage. Et là, tu vis l'instant, mais t'es seul, quoi. T'es seul et t'es dans ta chambre et t'es en Espagne. Il faut tchatcher l'espagnol, il faut tchatcher l'anglais. Et tu te dis, tu te concentres. Là, ce que j'ai fait, pendant une heure, j'ai essayé de regarder cette gaine, d'enlever le club, le remettre. Enfin, enlever ce que je pouvais enlever, parce qu'au niveau du shifter, c'était là exactement que le problème résidait. J'avais pas les outils pour accéder, pour démonter effectivement le shifter au niveau de la cocotte. Donc ce que je fais, je me calme, je me pose, allez, encore 15-30 minutes, et après je me dis non, je peux juste pas rester tout un dimanche en sachant que tout le monde roule, toi t'es là tout seul dans ta chambre, c'est juste pas possible. Et ce que je fais, je prends l'annuaire, mon fameux Google, et je tape Décathlon. Donc je tape Décathlon Grenade, parce qu'en fait le truc, je suis arrivé. J'ai dû aller à Badlands, à Grenade, en avion, hein. J'aurais bien voulu y aller par d'autres moyens, mais bon, il y avait l'avion, c'était plus rapide pour moi, voilà, c'était très bien. Et en sortant de l'aéroport, j'avais vu un Décathlon. Je m'étais dit, il y a un Décathlon ici. Voilà, sans aller plus loin, quoi. Sans me dire un jour, j'en aurais peut-être besoin. Bref, je vois je tape Décathlon Grenade, j'appelle. Et là, bien sûr, le dimanche à Grenade, c'est fermé. Donc, ce que je fais, je me dis, il faut que j'aille voir, et il faut que j'appelle au niveau de la ville la plus grande. La seule ville la plus grande que je connaissais, c'était Malaga. Malaga, c'est à quoi? C'est à 90 km de Grenade et à 2 heures de bus. Donc là, ce que je fais, j'appelle le Décathlon. Il y en a deux Décathlons. J'appelle un premier Décathlon centre à Malaga. Et là, ils me disent, ah oui, c'est bon, on a un Talleyrand, c'est un réparateur qui est là. J'ai fait, mais vous avez une boutique, il y a quelqu'un qui peut m'aider. Il fait, ah non, vous venez et puis après vous vous débrouillez. Je fais, non. Moi, ils me font un conseil parce que je vois pas du tout ce qui se passe avec mon vélo. Il fait, ok, je peux vous dire que ça. Donc là, c'était mort. J'appelle l'autre Décathlon à côté, à Malaga, mais à côté de l'aéroport, celui que j'avais repéré. Et là, ils me disent, oui, c'est bon, on est ouvert jusqu'à 21h. Donc là, bingo, ce que j'ai fait, j'ai pris mon vélo, je l'ai remis dans la housse, j'ai tout démonté, j'ai remis dans la housse, je suis parti, j'ai pris un premier bus qui m'a amené à la gare routière. Et ensuite, là, j'ai pris un bus où on partait pendant 2 heures jusqu'à Malaga. Et en me disant, tant pis, j'étais parti à Badlands avec un plan A. Le plan A, c'était tout se passe bien, j'ai pas d'accro, à part peut-être une ou deux crevaisons. Mon vélo, j'y touche quasiment, je suis quasiment le seul à y toucher, sauf là, effectivement, pour Badlands. 15 jours avant, j'avais amené chez le vélociste, il avait tout regardé, les câbles, enfin, on avait tout passé au crible, la révision parfaite, et normalement, il ne devait rien m'arriver. Donc, je partais vraiment serein en me disant, certes, c'est pas le vélo à 5 ou 6 000 ou 10 000 euros, mais au moins, c'est mon vélo, et je ferai ce que je pourrais avec. Le meilleur, bien évidemment. Et j'arrive à Malaga après 2 heures de bus où forcément pendant 2 heures tu cogites quoi. Tu te dis si jamais il y a quelque chose de cassé que je peux pas repartir, là c'est la grosse merde, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Donc là dans ma tête c'était préparer le plan B, dans tous les cas, puisque j'étais parti juste avec le plan A où tout allait bien se passer dans le meilleur des mondes, quoi. Là, il fallait que j'enclenche le plan B. Le plan B, j'en avais pas, quoi. Donc, je l'ai préparé dans le bus et j'arrive à Malaga. Là, effectivement, je remets mon vélo, je remets les roues, hop, parce que je pouvais encore rouler, mais sur une grande vitesse, quoi. Tu vois, il y avait un grand braquet et j'arrive à l'aéroport. Donc là, il y a quand même des voies rapides. Bon, après, en Espagne, il faut savoir qu'au niveau des cyclistes, ils sont ultra respectueux, je trouve. Ils klaxonnent pas, ils mettent le clignotant, enfin, ils mettent pas mal de distance. Donc j'étais assez sécure là-dessus et assez confiant. Donc j'arrive au fameux Décathlon et là je cours vers l'atelier, je leur explique ce qui se passe et ils me disent ah ouais, mais là alors là ils me font flipper tout de suite, ils me disent mais t'es tombé, qu'est-ce qu'il y a eu? Je fais non non, je suis pas tombé, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais le shifter il répond plus, le câble est complètement détendu. Ils me font ah ben oui effectivement on le constate. Donc là ils regardent, ils font ben non, le shifter est cassé. C'est pas possible, on comprend pas ce qui se passe. Ils étaient trois dessus, donc moi je commençais effectivement à fondre un petit peu à l'intérieur en me disant bah merde, c'est mort quoi. Et là il regarde bien, il va chercher une lampe de poche et il me dit mais attends, non c'est pas cassé. Donc là hyper rassuré en me disant super, dans mon esprit cool, je vais repartir. Et il me dit effectivement il y a quelque chose. Il va chercher un outil, il me dit vous aviez besoin que d'un seul outil. Et il me montre l'outil, il me dit c'était ça. Je fais mais c'était quoi ça? Et il montre l'outil qu'il m'a amené. Devine. Je pense que même toi avec ta grande expérience, tu l'aurais peut-être pas forcément pensé à le mettre. Quoique, mais c'était une pince à épiler. Une pince à épiler. Pourquoi? En fait, c'était l'embout du dérailleur. Du câble de dérailleur, le petit embout, tu vois, à chaque fois au niveau des câbles de dérailleur, il y a un petit embout qui permet de coincer. Donc, ce petit embout avait sauté au moment d'un passage de vitesse, sûrement, avait sauté, était venu se mettre entre le shifter et un petit truc, et donc ça coinçait, ça bloquait, ça faisait que plus rien ne répondait. Et donc là, il a tiré le petit embout, il a bien remis au milieu du voilà dans son dans la gaine et a dit ok c'est bon c'est parfait. Donc là ils ont on a retravaillé les vitesses au niveau du réglage de tous les passages de vitesse et puis c'était nickel. Ça nous a pris, ça a pris quoi, allez 10 minutes de diagnostic et ou 2 3 minutes de réparation. Et il me dit ok, vas-y file, parce que ils m'ont demandé ce qui s'est passé, qu'est-ce que je faisais, pourquoi j'étais là. Et donc je leur ai expliqué. Ils connaissaient pas Badlands, sauf un qui connaissait, et il me disait bon courage, vas-y file. Et puis là hyper heureux forcément, je retourne à l'aéroport. Puis là forcément l'aéroport, les bus, il y en a pour 1h45 d'attente. Donc là je reprends mon billet, hyper soulagé, en me disant l'aventure, je vais pas la vivre sur le départ avec les autres malheureusement, mais j'ai envie de la vivre quoi. Et là tu te dis attends, si au bout de 20 km j'ai eu cette petite merde, mais qu'est-ce qui peut m'arriver sur les 780 km qui m'attendent? Là tu te dis mais tout peut arriver. Tout peut arriver et tu te dis, mais en fait, tant que la ligne n'est pas franchie, tu seras pas finisher. Tu seras pas finisher. Et j'y allais pas pour la gagne. Parce que dans les récits de Badlands, même les winners, les super forts, moi, je classais super forts parmi les 50 premiers, même après, de toute façon, non, finalement, tout le monde, la caisse, tout le monde est costaud et préparé, je pense, pour Badlands. Mais bref, même eux, il leur est arrivé des petites merdes, ils ont beau avoir des super machines, être super bien accompagnés, ben, eux aussi, ils ont eu des merdes. Tout le monde a eu son lot de tracasseries, son lot de galères, et finalement, je me dis, mais à toute chose, malheur est bon, parce que ça m'est arrivé. Uniquement au 20e kilomètre, imagine le même truc, en plein désert, gorafé, là, j'aurais moins fait le malin, et puis ben là, j'aurais été obligé d'abandonner. Et là, ça m'arrive. Avant, je me dis, mais finalement, quelle chance j'ai eue finalement. Et finalement, est-ce que et puis ben là, après, je remonte dans le bus. Là, il était 18h30, je me souviens très bien. Je reprends le bus et à 21h, on arrive enfin à Grenade. Je tente de dormir un petit peu dans le bus. C'était compliqué. J'avais pris une chambre d'hôtel. Je me dis bon, ben, tant que j'ai pris la chambre, j'ai payé, je vais dormir. Et j'avais mis mon réveil à 2-3 heures du matin pour repartir, quand même reprendre la route sans aggraver finalement mon délai et mon retard. Et finalement, ben, à minuit, je me réveille. Je croyais qu'il était 2 heures du matin. Je sais pas. Je me réveille, j'étais en forme, je dis, ah ben, c'est cool, il est 2h, le réveil a pas sonné, tiens, c'est bizarre. Bah oui, forcément, il était minuit. Mon vélo était déjà prêt, puis ben, à minuit 11, j'ai pris la route et j'ai regagné la trace là où je l'avais laissé, puis ben, l'aventure commençait, quoi. Puis ben, après, j'ai roulé pendant 23h, quoi, 23h30, j'ai roulé, j'étais bien. Mais attention, c'est Badlands, et puis il faut se gérer. Alors après, ce qui est top dans cette aventure, dans cette belle aventure, c'est que la récompense, c'est forcément à 6h du matin, quand le jour se lève, il est 6h, tu vois enfin les paysages, et tu te dis, mais waouh, où est-ce que je suis? Mais c'était magnifique, j'arrive dans un décor, il y a à peine 2-3 bêtes, quelques lapins, et t'es seul face à cette immensité, face à la beauté de la nature, et tu te dis, ah ouais, quand même, ça vaut le coup. Et c'est là aussi que résidait la motivation, c'est que forcément, l'énergie, elle se trouve là aussi. Elle se trouve dans la beauté des paysages. Et c'est ce que je venais chercher ici à Badlands, c'était me faire plaisir via les paysages, me dépasser, parce que, voilà, on parle quand même de 16 000 mètres de D+. Donc moi, avec mes tracas, ben forcément, j'ai fait un peu plus de kilomètres que les autres. Et exactement, c'était 811 kilomètres pour moi et 16 800 de dénivelé au final. Mais derrière, quand tu pars les 100 premiers kilomètres, il est 6h du matin, le jour se lève, tu te dis c'est magnifique, t'es frais, t'es bien. Même si tu gères ton pas, quoi, parce qu'après, qu'est-ce qu'il y a à gérer? Il y a l'alimentation, il y a l'eau, il y a tout un tas de choses. Et moi, mon gros problème, c'était, c'était mon vélo. En fait, c'était mon vélo. Bon, au-delà du problème mécanique, le vélo, un vélo robuste, solide, j'ai confiance en lui, mais lourd. J'avais eu beau enlever des tonnes de trucs, de la bouffe, parce que t'en amènes forcément trop, et le truc quand t'arrives là-dedans dans ce genre d'aventure, et tu vois un petit peu la cargaison des autres, et tu vois la légèreté des vélos comme ça, tu te dis Raoul, il y a un problème, tu vas jamais y arriver. parce que quand je suis parti, j'ai pesé mon vélo et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi il est aussi lourd? Il faut savoir que ben en fait il faisait en tout de base mon vélo il fait c'est un vélo en acier. Beaucoup me diront c'est pas un foudre de guerre. Je sais que c'est ma foudre de guerre, c'est pas voilà, mais c'est mon vélo. Et il fait de base 11 ou 12 kilos, je sais plus. Mais là, avec ma cargaison, tu vois, tu te mets 4 ou 5 litres d'eau, la bouffe, le si, les outils, bref, je suis vite monté à 20 kilos, tu vois, 20 kilos à bas de l'Inde, 20-21 kilos, je veux même pas le savoir quoi, finalement, mais je sais que c'était très lourd. Et 20 kilos à bas de l'Inde, alors qu'à côté, t'as les autres aventuriers qui ont des vélos qui font, allez, en moyenne, je crois qu'en moyenne c'est 14-15 kilos, c'est correct. Toi, tu te dis déjà là, tu pars pas avec. Tu pars pas avec la même capacité quoi. Déjà, tu as les capacités physiques qui sont là. Je suis pas un cycliste, je suis un jeune cycliste, et en plus avec un vélo hyper chargé quoi, hyper chargé de base, parce que voilà, t'as beau mettre des équipements, tu te dis bon, tu mets des équipements que tu peux avec tes moyens. Effectivement, j'ai pas de jantes en carbone, j'ai pas tout ça, donc forcément, à un moment donné, ça pèse quoi. Je me souviens, bon, j'ai fait quelques gravelman. Je me souviens, c'est Steven m'avait dit, ton vélo, il est lourd. Et puis un autre vélociste, dont je tairai bien évidemment le nom, m'avait dit. Ouais, ah, c'est un chemin de fer ton truc, ouais, c'est bien, mais c'est un chemin de fer. Voilà, tu te dis, ouais, c'est un chemin de fer, mais là, je suis désolé, mais dans ma tête, je me disais, certes, un chemin de fer, mais j'ai juste pas les moyens, là, aujourd'hui, de m'acheter un truc beaucoup plus léger, c'est pas le moment, quoi. Donc, je me suis dit, bah, tant pis, je vais faire avec mon chemin de fer, et on verra bien ce qu'on pourra faire ensemble. Et au bout des 100-200 premiers kilomètres, ça va. Et ensuite, tu te dis ah ouais, quand même, là, ça quand même, ça commence à tirer. Et puis, ben, il faut gérer. Il faut juste gérer ton effort, gérer ton matériel et voir comment ça avance. Puis, ben, ça avançait bien. Ça avançait bien. Pourquoi aussi? Parce que le truc, c'est que étant tout seul, ben tu te gères différemment. T'es pas tenté forcément de suivre la cadence qui peut être au-delà de tes capacités, la cadence des autres, parce que forcément, quand tu pars en groupe, tu vois tout le monde avancer, t'as aussi envie d'avancer. Et puis ben là, tu te dis, et puis indirectement, tu grilles des cartouches, tu grilles des cartouches. Et moi là, finalement, ben, étant seul, je voulais remonter et rouler avec d'autres personnes, mais ils avaient quand même 16 ou 17 heures d'avance sur moi, donc je partais de très loin. Donc du coup j'ai réussi à gérer mon pas, parce que j'étais pas influencé par le rythme, qui aurait été quand même, je pense, bien soutenu des autres aventuriers. Donc, tout se passait bien, tout se passait bien. J'ai profité des paysages, j'ai pas arrêté de faire le touriste. Alors je pensais à toi un jour dans un de tes podcasts, je crois, je sais plus. T'avais dit oui, s'arrêter pour prendre une photo. C'est un nom, je sais plus. T'avais dit, mais prendre des photos, ça te fait perdre facilement 30 secondes, etc., etc. Et je pense à ça. Je me suis dit, mais en fait, non. La photo, pour moi, c'est ma récompense, et je vais en prendre des milliers, quoi, parce que vraiment, vraiment, ça valait le coup. Et honnêtement, aujourd'hui, je regarde les photos, je me dis, ah ouais, quand même, c'était magnifique. Oui, c'était très beau, quoi. Et je comprends pourquoi cette course, elle est prisée, et pourquoi les inscriptions, au bout de 8 minutes, ben, il n'y avait plus rien. Je comprends maintenant. Effectivement, le spot est juste incroyable. Alors on va te dire, oui, il n'y a pas besoin d'aller à Tata. Oui, il n'y a pas besoin de prendre l'avion pour vivre une aventure. Certes, mais là quand même, le déplacement, ça vaut le coup. Et c'est pas ce que j'aurais trouvé en forêt de Fontainebleau. La forêt de Fontainebleau, elle est magnifique, mais Badlands et l'Andalousie, c'est au-delà, quoi. C'est vraiment au-delà.
C'est bon, je peux en placer une maintenant?
Ouais, vas-y, je t'en prie.
Alors, du coup, 2 mois sans épisode, j'avais un petit peu peur d'avoir perdu la main. Je dois reconnaître que je suis plutôt ravi d'avoir recommencé avec toi, parce que je pouvais pas recommencer avec quelqu'un d'autre que toi. tout simplement parce que bah, t'étais sur la course qui m'a été enlevée. Et je suis bien content que tu sois aussi bavard parce que finalement ça va m'éviter de trop blablater. J'avais pas envie de faire d'épisode pendant ces deux derniers mois parce que j'avais pas envie de parler. Et bah du coup, moi j'ai juste envie de savoir pourquoi tu n'as pas abandonné.
Pourquoi j'ai pas abandonné? Parce que tu te dis, tu sais que c'est, tu sais qu'au bout du chemin, tu sais que l'aventure devrait être belle et va être belle, et je viens juste de commencer, il me reste encore du temps, je sais que je me suis entraîné pour, j'ai pas fait tout ça pour rien, et t'as envie d'aller voir ce qu'il y a après. Tu peux juste pas rester comme ça en te disant bon ben c'est pas grave, je reviendrai l'année prochaine, là je vais profiter. Ben non, je voulais profiter mais à ma façon, en vivant vraiment l'aventure, et il fallait absolument trouver une solution. J'avais pas fait tout ça pour rester sur le carreau au bout de 20 km. Ça aurait été un déchirement, ça aurait pas été entendable, absolument pas, c'était inconcevable d'arrêter là, alors que il y a quand même 5 jours pour faire la trace. Certes c'est près de 800 bornes, mais c'est quand même 5 jours, ça peut passer pour quelqu'un, qui s'est préparé pour et qui a envie de vivre cette aventure. Alors sur 800 km, effectivement, il peut en arriver des choses. Mais bon, quand même, ça aurait été ne pas avoir courir la malchance à chaque fois. Non, ça aurait pas été possible. Tu vois, parce que sur une fois qu'il y a eu cet épisode malheureux dès le départ, ensuite j'ai absolument rien eu, quoi, mais aucune crevaison, enfin tout était nickel. Je me souviens, mais c'est ce kilomètre 10 là, quand il y avait une énorme descente, ils appelaient ça descente technique, oui, il y avait pas mal de cailloux, il fallait faire attention, ça allait très vite, tout le monde descendait en même temps, et là à un moment donné je vois une Française super forte qui s'appelle Sophie Jay, qui prend cette descente, mais une vitesse mais hallucinante. Je me suis dit, ouais, mais comment on peut descendre aussi rapidement cette...
Eh bien là, nous avons perdu Raoul. Voilà, donc... Je suppose qu'il a perdu la connexion de manière temporaire et qu'il va revenir parmi nous dans les plus brefs délais. Et ben voilà, on a récupéré Pierre Belmar. Ça y est. Donc il est assis, vous pouvez constater. Alors évidemment, si vous êtes en podcast pur et dur sur Spotify, etc., vous ne verrez pas. Mais si vous regardez ça sur YouTube, vous pourrez voir que Raoul est devant sa bibliothèque. Ouais. Donc le digne descendant... de Pierre Belmar, qui nous a raconté Badlands avec brio. Et je croise juste les doigts pour que le reste de l'épisode, que la partie précédente soit bien téléchargée et que tout fonctionne. Et voilà. Donc, on en était à parler de la fameuse descente de 10 km qui était si piégeuse. On en était à Justina Sleveka qui fait 4 ou 5 avec un super vélo, un trek, checkpoint. Mais il avait quand même négligé d'emmener l'éclairage. Il l'a aussi montré récemment sur l'Atlas Mountain Race qu'il avait aussi négligé la partie pilotage, parce que manifestement, il s'est viandé une vingtaine de fois jusqu'à la dernière qui lui a été fatale. Donc,
j'ai vu ça.
Donc le matériel, bah oui, malheureusement, parce que alors évidemment, ça n'a rien à voir parce qu'il est super sympa. Mais c'est quand même un super athlète qui est devant, qui imprime un tempo de malade. Et il se laisse un petit peu enflammer, et c'était hyper décontractant, tu vois, de parler avec lui, parce que là, tu viens de nous raconter ton périple, et c'est hyper facile de s'identifier à toi, parce que nous tous, la plupart qui écoutons, on n'est pas des champions, on a ce qu'on a comme matériel, On fait avec ce qu'on a et puis on essaye de gérer nos merdes au quotidien. Mais ce qui est très rassurant finalement, c'est que Justina, ça a beau être un top. Il a gagné le Rwanda, il a gagné la Free Picks, il a gagné un truc au Pays de Galles. Il était vraiment devant sur Badlands. Et ben, il lui est arrivé les mêmes choses avec simplement le, bah, il avait un super vélo et des super jambes, mais il a oublié tout le reste de la logistique. Et même la gestion de course, il l'a oublié. Et il m'a dit, nous, on était devant avec Ulrich, on a roulé comme des marteaux. Je voulais pas m'arrêter, récupérer mon bidon et perdre 30 secondes et décoller de la tête de course. Et derrière, il y avait Sébastien Breuner, le mec qui gagne. Il me dit, il avait ses écouteurs. Je sais pas s'il écoutait de la musique ou des podcasts, mais n'empêche qu'il était derrière, au loin, il nous regardait s'effriter. Et à un moment donné, quand Ulrich et moi, on s'est arrêté parce qu'on crevait de soif, bah lui, il est passé et puis voilà. Et c'en était fini. Lui, il a... Alors, il faut relativiser, parce que le mec, il est champion d'Allemagne de VTT, quand même, de cross-country.
Oui, donc,
c'est pas non plus une crêpe, mais n'empêche qu'il a très, très bien géré son affaire, et les autres sont partis comme des dégénérés. Et voilà. Donc, le matériel, les jambes, c'est bien, mais c'est vraiment pas la totalité de l'équation.
Absolument.
Il vaut mieux avoir le mental comme toi, et maintenant je te laisse repartir pour une diatribe de 30 minutes.
Ah, merci beaucoup, c'est sympa. Non, je voulais dire justement sur le premier, sur Sébastien. Lui aussi, il a eu une merde avec son vélo sur son shifter pour. Donc voilà, et avec quand même, on parle d'un super athlète qui a un vélo. Voilà, de compétition pour le coup, et qui malgré son boulot de compétition a aussi eu des difficultés. Hein. Donc forcément un rookie comme moi, fier d'être un rookie, oui. Donc c'est pour ça. Je suis vraiment fier d'être allé jusqu'au bout et d'avoir tenu. Avec le mental quoi. Il fallait vraiment que j'aille rechercher dans mes retranchements, parce que ce type de preuve là je connaissais pas du tout, des épreuves plus beaucoup moins longues ça oui, mais un 800 bornes dans de telles conditions, voilà, je connaissais pas, où il fallait quand même, alors il a fait moins chaud que l'an dernier, mais il fallait quand même gérer la chaleur, hein, et puis gérer la course de bout en bout, donc à mon niveau certes, mais j'ai quand même, voilà, je me suis pas reposé, j'ai quand même roulé tout en roulant au pas, en prenant du plaisir, mais voilà, j'ai vécu l'aventure jusqu'au bout, à savoir j'ai à chaque fois les j'ai dormi dans les villes, dehors. J'étais content justement de vivre ces expériences là. Et par contre, tu vois, je dormais peu. Je mettais pas de réveil. Je m'endormais et 2-3 heures plus tard, je me réveillais et hop, je reprenais la route. J'étais bien, sauf le dernier jour quand même. Là, la fatigue, elle était bel et bien là. C'était très 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 compliqué. Hein. J'ai eu en plus un coup de chaud à un moment donné. Donc là, le coup de chaud, je connaissais pas. Hein, je savais pas ce que c'était un coup de chaud. Tout le monde parle de coup de chaud. Oui, attention. Ben en fait, là, je l'ai pris en pleine tranche et je peux te dire, j'ai mis 2 heures à faire 2 kilomètres. Trouver un fameux bar, ben j'étais hyper content de le trouver parce que ouais, à ce moment-là, c'était, je me souviens, aller à 90 bornes avant la fin, avant d'arriver à, je sais plus la ville, c'était Cadia, enfin je sais plus, mais c'était une horreur, c'était juste une horreur. Je traînais mon vélo, je le poussais, mais j'en pouvais plus quoi. J'étais pas bien, quoi. J'étais vraiment pas bien, donc je pense que c'était l'alimentation qui était pas au top et puis la chaleur que j'avais pas vu arriver parce qu'effectivement il faisait 40-42 ce jour-là et là c'était compliqué quoi. Voilà, c'était vraiment la zone compliquée de l'aventure, c'était là et peut-être un peu après Almeria parce qu'il y a une zone, c'était quand même pas mal de cailloux et là aussi là aussi, voilà, j'étais hyper content de pousser mon vélo, quoi. Il y en a qui, il y en a qui roulaient, mais non, moi, pendant les 1 km, 1,5 km, j'ai poussé mon vélo, mais j'étais ravi de le pousser, quoi. Et voilà, non, ouais, là, c'était dur. J'avoue. Alors, d'autres diront, bon, Badland, ça va, ça passe. C'est vrai que c'est fait pour du gravel. C'est la trace, elle est top. Elle est vraiment, c'est vraiment une trace gravel avec quelques sections effectivement où il faut pousser, mais autrement c'est un pur régal, quoi. Y a rien à dire.
Ah, bah, tu vois, tu parles tellement bien que je ne sais même pas quoi dire de plus pour faire mieux que ça. Si tant est que ça servait à quelque chose. Je suis en train de tomber malade en plus. Du coup, j'ai une belle voix
Non,
bien
non, pas.
grave. J'ai une belle voix bien grave en plus, tu vois. On dirait
Ouais.
Fabrice Drouel sur France Inter. Et
Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça.
là, il a découpé sa tête avec un couteau rouillé.
Excuse-moi, je vais juste rajouter quelque chose parce que quand
Ah
tu
bah oui,
parles
ça
sur
m'arrange,
ce type.
ça m'arrange, ça m'arrange.
Ah, merci, merci. Non, non, quand ce que je voulais dire, quand tu pars sur ce type d'aventure, là où j'étais content, c'était finalement, bah, je pars bon dernier, 16 heures après tout le monde, mais là où j'étais content, c'est quand même retrouver d'autres coureurs, d'autres aventuriers, et là il y a le dialogue qui se fait, et puis la rencontre tout simplement avec les autres. Donc ça tombait bien, c'était des Français, hein, que j'ai rencontrés. Ils roulaient en paire, super sympa. Voilà, après chacun a son rythme, chacun fait son fait imprime son rythme sur la course. Chacun s'arrête quand il peut, quand il veut. D'autres repartent, mais ça vraiment, ça c'est agréable. C'est agréable de se dire, bon, ça y est, je suis plus tout seul, parce que si j'avais voulu faire la course, la trace tout seul, ben c'était pas compliqué. Je prenais mon vélo, et j'y allais, mais c'était pas le but. Le but, c'était de partager aussi avec d'autres, même si est-ce qu'on partage vraiment finalement sur cette petite aventure? Ben, moi, dans mon état d'esprit, c'était, ben, finalement, on va pas forcément partager parce que chacun va aller à son rythme, mais si finalement il y a quand même du partage, malgré tout, il y a quand même du partage, et il y a aussi des rencontres avec des locaux. Ça, c'était formidable. Rencontre avec un local, je me souviens, Manuel, il tenait un marché, et il m'a vu arriver. Il était curieux de savoir pourquoi il voyait passer autant de vélos, et pourquoi ça fait 2 ans qu'il voit passer autant de vélos, et il n'a pas la réponse. Et là, je lui ai enfin apporté la réponse. Il était, mais, ravi, parce que c'est un monsieur qui faisait avant du bikepacking à l'époque, à son niveau aussi. Et puis, ben, lui, il allait plutôt aux îles Canaries. Donc aujourd'hui, ça a été remplacé un petit peu par la Grande Guaché, tu vois, cette course-là. Et puis, ben, lui, il faisait plusieurs îles comme ça à vélo. Donc ça, on a tchatché un petit moment, c'était super sympa. D'autres locaux aussi, deux personnes que j'ai rencontrées, leur prénom, c'était Bienbenida et Lourdes. Tu vois, le truc Bienbenida, déjà, c'est pas mal, et Lourdes aussi, tu te dis, ah ben tiens, c'est quand même deux prénoms qui sont faits pour ce moment-là, parce que j'arrivais dans une ville qui s'appelle Gore. Il était 23h30, et il fallait absolument que j'arrive avant 23h parce que je voulais manger quelque chose, et j'avais vu que les restaurants fermaient tôt. Finalement, je suis arrivé une demi-heure après, tout était fermé. Puis, ben, là, j'avais pas grand-chose avec thé. J'en avais assez des bars et des compotes. Voilà, et elles m'ont vu arriver, elles m'ont accueilli à bras ouverts en me disant, est-ce que tu as faim? Mais tout est fermé, mais si tu veux, on peut te préparer un petit truc. Et ben, effectivement, j'ai dit, ah oui, je veux bien, s'il vous plaît. Et super sympa, elles sont revenues, elles m'ont apporté un petit yaourt, elles m'avaient fait un petit sandwich. Enfin, adorable, adorable. Et puis, j'ai dormi 2 heures, et à mon réveil, il y avait un petit panier composé de fruits, pommes, bananes. Il y avait 2 pommes de bananes, enfin, et puis un petit peu de ramone. C'était, j'ai halluciné, j'ai fait, mais, Elles sont trop sympas, quoi. Je me suis dit, mais en fait, les locaux dans cette zone-là, ils sont vraiment.
Ouais, bah on a encore perdu Raoul. Alors c'est bien dommage, hein, parce que des orateurs comme ça, on n'en trouve pas tous les jours.
Coucou, je suis là.
Bonjour.
Ça n'a pas duré trop longtemps. Hein.
Bon, alors tout ça pour dire que les Espagnols sont sympas. C'est pas un scoop. Ils sont cool.
Ouais.
Ils sont vraiment cool, ces Espagnols.
Vraiment, vraiment, vraiment. Dans ces zones-là, ils étaient super sympas. Et puis, un autre village aussi, Félix. Là, je suis arrivé dans cette commune. Et là, par contre, j'avais envie de dormir. J'avais envie d'un hôtel. J'avais plus envie de dormir, même le sol. Finalement, il n'y en avait pas. Puis, j'ai dormi comme ça sur la place. Et les gens, ils hallucinaient. Et puis, je les entendais parler. Ils disaient, ouais, c'est quand même pas normal. Il y a plein de vélos qui passent. On n'a même pas d'hôtel. On n'a rien à leur proposer. Tu vois, ils étaient confus, quoi. Finalement, bon, sauf que. Et ils me disaient, oui, la fontaine, on la voit même pas. Il faudrait qu'il y ait des fléchages pour indiquer qu'il y a une fontaine, qu'elle est là-bas. Parce que vous voyez, quand même. Et là, je me suis dit, ah bah, tiens, c'est, voilà, en fait, ça m'a amusé, leur réaction, même dans mon pseudo-sommeil. J'ai pas tellement dormi ce jour-là. Mais voilà, c'était, les gens, ils sont un petit peu surpris de nous voir tous débarquer. Mais bon, maintenant, ils commencent à être habitués, hein, c'est la 3e année. Bon. Non, je pense que voilà.
On l'a dit. Bon, puis tu l'as dit bien, bien modestement et, que tu roules à ton niveau. Alors bon, ça veut rien dire, hein, je te le dis gentiment, mais ça veut rien dire quand on dit je roule à mon niveau, hein, parce que tout le monde roule à son niveau. Simplement, il y en a qui roulent à un niveau, à un tempo plus élevé, mais on ne fait que ça de rouler à notre niveau. Tout le monde roule à son niveau. Donc ça veut rien dire du tout. C'est une vaste fumisterie, Raoul, désolé.
Donc À part que
c'est juste une fausse humilité vaguement dissimulée, mais tout le monde roule à son niveau. Même Sébastien Breuer, il roule à son niveau. Sauf qu'effectivement, le rythme de Sébastien Breuer, il est 2,5 fois supérieur au nôtre. Voilà, c'est tout.
On est d'accord.
C'est juste ça. Ouais. Mais bon, on va parler de préparation maintenant parce que tu as quand même fait quelques beaux trucs et je sais qu'il va se gosser quand il va entendre ça, mais tu as participé à un long organisé par l'infâme Pierre-Charles Flipeau. Donc, vous avez remonté la Seine, ou vous l'avez descendu entre Paris et Dijon, je ne sais plus dans quel sens, mais je sais très bien que quand il va entendre ça, il va s'empresser de mettre ça sur Instagram et dire « il a parlé de moi !» Quel branleur.
Ouais, c'était Paris-Dijon. C'était Paris-Dijon, effectivement.
Très belle épreuve. Très belle épreuve.
Une très belle épreuve. Très belle épreuve, un très beau tracé. Et surtout, Pierre-Charles, adorable.
Je me moque, mais c'est une crème. Quand je me moque, c'est que j'aime beaucoup les gens.
Un monsieur extraordinaire, très beau tracé, super bien organisé, super. Et puis là aussi, à Hollande, j'y allais aussi pour, ça faisait 450 bornes. J'y allais aussi pour enquiller des bornes, hein, en vue de Badlands. Et là, par contre, j'ai appris aussi. C'est là que t'apprends à te connaître, parce que je sais que sur des épreuves comme ça, quand je dors pas, je sais que j'ai besoin. J'arrive sur la ligne, j'ai besoin de dormir tout de suite. Que ce soit que je m'allonge sur le sol et je roupille, ne serait-ce que 20 minutes, voilà. Sauf que là, après cette belle trace, hein, où je me suis enquillé les 450 bornes d'une traite, hein, quasiment, où j'ai essayé de dormir dans des champs de vignes, ça n'a pas forcément fonctionné, hein, puisque je me suis fait réveiller par des lapins. Ça m'a fiché un peu la trouille, mais c'était que des lapins en fait. Donc du coup, je reprends mon vélo et je me dis,
le Parisien, quoi, attaqué par des lapins adultes, la terreur de sa vie, quoi. Mon pauvre vieux.
Non. Je ne suis qu'un Parisien d'adoption à la base. Moi, je suis. J'ai grandi dans le Sud-Ouest et.
Ah bon, parce qu'il n'y a pas de lapins dans le Sud-Ouest.
Il y a énormément de lapins. J'ai grandi dans. On avait chez nous, on avait énormément d'animaux. J'étais un paysan, j'étais un agriculteur. Les animaux, la ferme, la campagne, enfin, je connais extrêmement bien. Donc non.
Non, mais t'as quand même eu peur d'un lapin adulte.
Bah oui, c'était sur le moment. Peut-être là, on va mettre ça sur le compte de la fatigue.
Ça surprend.
Un petit lapin
qui gratte sur le bibi, c'est vrai que ça surprend.
Voilà, c'est ça, je m'y attendais absolument pas. Et puis lui non plus, hein, parce qu'il a bien étalé, quoi. Et puis après, j'ai pris mon vélo et je suis reparti. Et au final, je suis arrivé. J'étais explosé, quoi. J'avais besoin de dormir, de m'allonger, de dormir, chose que je n'ai pas forcément fait sur le coup. Et une demi-heure ou trois quarts d'heure plus tard, bah, j'ai eu un coup de bambou. J'ai eu comme si j'étais tombé dans les pommes, quoi. Tu vois, j'étais vraiment pas bien. J'avais besoin de dormir en fait, et là ça a bien fait flipper Pierre-Charles, qui s'y attendait pas, le pauvre, moi non plus, hein. et puis c'est là aussi que t'apprends à te connaître, et tu sais absolument, tu connais tes limites, quoi. Tu sais que et là notamment, c'est ce que j'ai mis en pratique à Badlands, le moindre coup de fatigue, clac, je m'arrêtais, je dormais, voilà, parce qu'il faut être quand même vigilant. On n'est pas sûr. La petite pierre, le ci, le là, dans les descentes, ça va très vite. Il faut être concentré. Il faut être concentré, hein, du début jusqu'à la fin, quoi. C'est pas le petit parcours tranquille. Non, il faut profiter, prendre du plaisir et puis être concentré et faire attention, quoi. Faire attention à soi, s'écouter. Voilà, ça reste que du vélo, c'est juste une aventure. On va pas se mettre en danger pour ça. Et moi, il était pas hors de question que je me mette en danger. Donc je savais très bien quand je pouvais rouler, quand est-ce qu'il fallait que je m'arrête, surtout.
Le fils caché, alors désolé pour la relation cachée, mais le fils caché de Pierre Belmar et de Raphaël Antoven. Incroyable.
Carrément.
Carrément. Je suis pas sûr que ce soit un compliment, je n'en sais rien, je me permettrai pas. Mais en tout cas, alors je suis quand même pris au dépourvu en fait, parce que tu racontes tout ça tellement bien que je ne sais pas quoi te demander en plus. Sincèrement, je ne sais pas quoi. Parce que tu nous as raconté Badlands du début à la fin. Along, tu nous l'as parfaitement vendu. Je pourrais juste rajouter que Pierre-Charles n'a pas été au bout de ses peines, parce qu'en plus de toi, il a eu à subir le comportement déplorable d'un certain Laurent S., dont je t'ai révélé l'identité réelle, qui lui est un dégénéré de première et qui s'était emmanché à faire ça d'un seul coup, et qui, je crois, l'a fait... Et ça a bien étonné.
Bien sûr. Charles,
mais pareil, je dis.
Ouais,
ça,
ouais, il a bien fait d'une traite. Hein. Non, il a bien non, fait d'une traite. Alors,
le bougre.
Ah, mais tu le connais aussi. Ah, parfait. Ben,
c'est un de mes gars, c'est un de mes athlètes.
Je veux rien te vendre, mais il a fait d'une traite. Hein, le gaillard, j'ai essayé de le rattraper. Parce que je voyais ces traces là, je voyais la fraîcheur des traces. J'ai essayé de le, mais bon, en vain, il était beaucoup plus costaud là ce jour-là. Mais à la fin, il était pas frais non plus. Hein.
Il finit jamais frais. Hein, t'inquiète. Non, mais la dernière fois, le dernier truc qu'il a fait, il m'a raconté le nombre de crevaisons qu'il a subi et les dommages qu'ont subi son vélo. Ah non, mais là, tu vois, il va faire Verdun-Paris, et l'essentiel de mon travail de coach, c'est de l'empêcher d'aller rouler. parce que sinon il va jusqu'au dernier moment, il se déglingue la tronche et arrivé sur Verdun Paris, il en remet une couche et il casse tout. Mais c'est à hurler de rire. Je l'adore. Il est vraiment trop cool. Et comme je sais qu'il écoute, je l'embrasse tendrement. Voilà.
Ouais, non. Là aussi, tu vois, sur des courses comme ça, c'est là où c'est là où on fait des rencontres. Hein. J'ai fait de très belles rencontres lors de mes Gravelman. Et puis à la Hollande également. Et là, sur Badlands. Ce qui est drôle à la Badlands, c'est que finalement, les gars que tu suis comme ça, un peu sur Insta, tu les retrouves. Là. Tu les retrouves. C'est toujours sympa de tchatcher un petit peu avec eux. Voilà, notamment la bande des Néerlandais, hein, la team de Fernouilly, sur son nom sur Insta, je crois, c'est ça.
Ouais.
Et il a d'ailleurs sorti un très beau film là sur Badlands.
Ouais,
effectivement, ça, on s'y retrouve bien. Hein. Ben, eux aussi, quand même, c'est pas des premiers, ce sont pas des rookies, hein, contrairement à moi, mais voilà, ils ont morflé aussi. Hein, ils ont morflé pour te dire. Ben, c'est là que je suis rassuré un peu en me disant bon, ben ouais, quand même. Certes, c'est du gravel, ça peut être roulant par moment, mais ça reste dur aussi, quoi. Ah, c'est dur aussi.
Tout le monde souffre sur ces trucs-là. Tout le monde souffre. C'est pour ça que ton expression, oui. Je le fais à mon niveau, mais à un moment donné, tout le monde en chie. La seule différence, c'est qu'il y en a qui en chient un peu plus vite. Mais le vélo, ça reste une histoire de mal au cul, de mal aux jambes et de soif et de faim. Et tout le monde en chie. Mais simplement, il y en a qui ont la chance d'en chier un petit peu plus vite. Mais sinon, tout le monde a souffert. Mm-hmm. Tout le monde a souffert. Oui,
l'Atlas, ouais. J'ai suivi ça également. Mais tout le monde, certains rencontrent aussi des problèmes mécaniques. J'en connais d'autres qui ont eu des problèmes mécaniques vers la fin. Tu te dis non, pas maintenant. Et les gars, ben, ils ont continué à rouler jusqu'au bout, quoi. Mais ils ont rien lâché. Bon, derrière, ils ont quand même morflé physiquement parce que le corps, après, il se rappelle que tu lui as, ouais, que t'es allé jusqu'au bout, quoi. Mais moi, je sais qu'au niveau de mes chaussures, alors on ressort de là avec enrichi en se disant ben la prochaine fois, effectivement, je ferai pas ça, la prochaine fois je partirai pas avec telle chaussure, la prochaine fois j'aurai un vélo plus léger, la prochaine fois, etc. parce que énormément d'éléments d'enseignement, quoi, où on se dit ben j'ai envie que ce soit plus agréable et plus facile aussi. Tu vois, au niveau des chaussures, j'avais de bonnes chaussures, mais finalement il s'est trouvé que ben à un moment donné j'avais ultra chaud aux pieds. Heureusement, c'était au niveau de la taille, c'était parfait, j'avais pris quand même des pointures au dessus, je suis habitué, mais j'avais hyper chaud aux pieds. Aujourd'hui, ben j'ai encore au niveau des orteils un petit peu quelques fourmis, tu vois. Plus d'un mois après, quoi, je me dis ah ouais, quand même. Bon, alors après ça passe au niveau des mains, tout ça, il y a rien eu, hein, c'était nickel, mais voilà, on ressort quand même avec on est un petit peu attaqué, quoi, malgré tout, sachant que derrière, bon, moi après j'ai enchaîné sur d'autres, j'enchaîne sur autre chose parce que je fais pas que du vélo, donc j'enchaîne sur une autre préparation derrière et c'est de la course à pied.
Ah, tu m'en avais parlé, ça. T'avais pas un truc juste après quand t'es passé boire un coup à la maison? Bah oui, parce qu'on.
Si, effectivement.
Après, on va prévenir quand même, mais on se connaît avec Raoul, hein. Ça sort pas de nulle part non plus, hein, quand même. C'était quoi déjà? Pardon.
Oui, effectivement, là c'est le. Bon, c'est la. Là je suis en train de préparer le marathon de Valence, comme beaucoup de Français, beaucoup de Français préparent ce marathon. Et là, ça a lieu début décembre. Donc bon, Voilà, tu vois, on enchaîne, on passe du vélo à la course à pied, c'est autre chose, quoi.
T'es pas le seul, hein, parce que Gauthier Bonnecarrère, qui fait cinquième, une semaine avant, il a gagné un trail. Tu m'as parlé de Marc-Antoine, qui est, soit il y est encore, soit il a juste terminé au grand trail, au grand raid de la Réunion, à la Diagonale des Fous, pardon.
Oui. Donc, la Diagonale.
Enfin, entre guillemets, c'est un classique, mais effectivement, ça marche bien parce que on en a déjà suffisamment parlé. Il y a plein de similitudes.
Oui. Effectivement, Gauthier, justement, quand je rencontre à Balland, il est génial, quoi. Enfin, et puis, non, il a très bien roulé aussi, là, extrêmement bien roulé. Là-bas, ils ont fait fort, hein, ils ont fait fort. Chapeau.
Bon,
voilà.
Maintenant que t'es plus un débutant, parce que quand t'as fait ça, on peut plus dire que tu sois un débutant. Alors certes, tu peux toujours dire j'aurai de nouvelles chaussures, j'aurai ça, mais c'est la magie du truc, c'est qu'il t'arrivera toujours autre chose.
Maintenant, il m'arrivera toujours autre chose.
L'année prochaine, tu fais quoi? Ou est-ce que tu n'y penses pas encore?
L'année prochaine, non. Si. Bah forcément, t'as vu toutes les belles aventures qu'il y a. Déjà, j'aimerais parcourir quelques belles régions françaises. Ne serait-ce que le Morvan. Le Morvan, c'est vraiment à côté. Je prends le TER, je mets le vélo dans le TER, je suis dans le Morvan et le parc régional est a l'air magnifique. Après il y aurait énormément d'autres régions, les Cévennes, j'ai envie de découvrir les Cévennes, t'as envie de faire plein de trucs, mais après t'as aussi ta situation personnelle, familiale, professionnelle, qui te dit non, à un moment donné tu peux pas être partout, à un moment donné il faut aussi trier et puis on a le temps, le faire petit à petit sans vouloir tout avaler, parce que c'est juste pas possible, même si t'as une satiété incroyable, non, tu peux pas tout ingurgiter comme ça, il faut aussi prendre le temps, profiter, mais il y a quelques épreuves qui me font envie, alors ça serait plutôt vu ma position au niveau de ma famille, c'est pas toujours simple, il faut aussi qu'il y ait une part d'équité, c'est pas toujours simple de prendre plusieurs jours, donc ça sera plutôt des épreuves sur un ou deux jours, tu vois, des trucs flash, mais derrière, quand même dans le coin de ma tête, quand j'étais à Balland, je m'étais dit merde. Non mais c'est bon, quoi, terminé, j'arrête, j'ai plus, parce qu'un truc aussi qui m'a écœuré, c'était le camelback. Ok, t'as ton truc, t'as tes litres d'eau, mais au final c'est pas terrible parce que ça chauffe, ça se réchauffe, et boire de l'eau chaude en plastique et tout, t'as le goût, t'as tout ce mélange, c'était juste immonde. À la fin, j'en pouvais plus, quoi, j'en pouvais juste plus. Donc là, il faut que je trouve une solution là pour contrer trouver une autre solution que le camel, je sais pas comment faire, mais c'était pas terrible. Et puis d'autres aussi, parce que j'ai posé la question, est-ce que je suis le seul là-dedans, finalement non, d'autres aussi ont été au bout, étaient écœurés, quoi. Donc après, bon, il y a une épreuve qui me tient à cœur, je peux pas dire. Non, je dis pas, parce que ça peut-être pas se faire un jour. Donc je préfère rien dire. Je vais rester en France, je vais faire des petits trucs en France. Ça va être très bien ainsi.
Ça se fera petit à petit.
Voilà,
comme
c'est
tu
ça.
L'as dit, c'est pas ça, toutes c'est... les émotions d'un coup. Et puis si c'est pas cette année, l'année prochaine, ça sera l'année d'après. Les enfants ne font que grandir, ça devient de plus en plus facile. Quand même.
Ouais.
Et puis, madame, pour la connaître, elle a l'air quand même plutôt cool. Ça a quand même pas l'air d'être une casse-couille.
Ou alors, ça va.
Elle a bien caché son jeu parce que je l'ai amadoué avec les bonbons que je lui ai offerts.
Ouais, c'est ça.
Ça doit être les Haribo, ça a aidé. Je pense.
On a aussi besoin de ce soutien-là. On a aussi besoin de ce soutien. Et c'est vrai que là, c'était important. c'est important. Autrement, bah, tu fais pas les trucs, tu les fais avec moins de conviction, quoi. Quand t'as un soutien, quand t'as, voilà, un soutien de la famille, c'est vrai que c'est un plus. C'est un plus sur Badland. J'ai eu énormément de soutien via WhatsApp, et c'est vrai que ça motive, ça aide aussi à s'accrocher, à aller jusqu'au bout, hein, parce que encore une fois je répète, mais des épreuves comme ça, c'est tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie, tout peut arriver. Pour moi, tout peut arriver. Tu peux, voilà, je suis tombé une fois. J'ai eu les chocottes, hein, parce que je suis tombé sur le shifter, quoi. Et là, je me suis dit, oh non, c'est pas vrai, c'est pas possible, c'est pas là que ça peut arriver. C'était au kilomètre 500. Finalement, tout s'est bien passé. Une petite égratignure, rien du tout. Mais voilà, c'était une pierre. J'ai ripé et hop, boum. Sur une descente, ça va vite. Bon, ça c'est bien terminé, mais effectivement, il faut être concentré, quoi. Il faut être concentré, et, le nez en l'air aussi, certes, pour profiter. On est là pour profiter. Enfin, moi, j'étais là pour profiter essentiellement, hein, mais avec une dose de concentration, quoi. Voilà. Même si ça reste, voilà, c'est pas, y a pas de dangerosité. Hein. Absolument pas. Et les passages dans les déserts, je craignais ces passages dans le désert. Finalement, ça s'est très bien passé, sauf le deuxième désert, Tabernas. Là, je me suis bien éclaté, j'ai roulé comme une brute, mais j'ai tout donné. Et puis la deuxième partie, ben, j'étais ramassé à la petite cuillère. J'ai rien géré du tout. J'ai donné. Mais après on arrive des parties où t'as des sables mouvants où il faut pousser, et là tu dis, mais il faut que ça se termine, ce truc, j'en peux plus, quoi. Parce qu'effectivement, là pour le coup, j'avais pas bien géré mon effort, quoi. Mais voilà, je voulais, j'ai appuyé, quoi. Je venais de manger, j'étais bien, j'ai appuyé, j'ai tout donné, quoi. Je me suis dit, allez, profitons-en. Ah, ouais. Mais
ça, voilà, durera pas,
c'est tout. Voilà, c'est ça. Et les zones aussi, c'est sur ces courses-là, quand t'as des belles descentes, là tu te dis, mais yes, kilomètre cadeau, t'es hyper content. Sauf que derrière, t'as la montée qui t'attend un kilomètre derrière, et là tu te dis, ah ben ok, d'accord, ok, tout ça pour ça, quoi. Mais bon, voilà, ça fait partie du jeu. Hein. C'était très sympa.
Mon petit Raoul, je vais devoir t'abandonner, parce que oui. On a fait le tour, je pense. Alors, j'aurais quand même bien une dernière, ouais, petite question fourbe.
Ouais.
Il t'a fallu combien de temps pour revenir de Badlands dans la tête et te dire, ok, je suis de retour chez moi, je suis plus dans le désert, j'ai plus à dormir par terre. Il t'a fallu combien de temps pour revenir à la réalité? Parce que j'ai l'impression que t'es pas encore revenu là. J'ai l'impression que tu y es encore.
Non. Forcément, t'es revenu. Hein, la vie familiale, la vie professionnelle te remet vite les pieds sur terre, quoi. Mais bon, honnêtement, il m'a quand même fallu, une bonne dizaine de jours bien tassés. Allez, je dirais 15 jours, parce que quand même, je me suis surpris à deux trois fois rêver que je roulais, à rêver que j'étais là-bas, quoi. J'en rêvais, quoi, vraiment. Alors est-ce que je suis le seul dans ce cas-là, honnêtement, ouais, j'ai fait des rêves. Et puis après, ben, il fallait quand même récupérer la dette de sommeil que j'avais accumulée. Donc là, tu rentres, ouais, tu rentres du boulot, t'occupes un petit peu, voilà, de la famille, les enfants, etc. Et puis à 9h30, t'es au lit, mais t'es super content d'être dans le lit, et tu dors tout de suite, quoi. Tu cherches pas. Et ouais, il y avait quand même une dette de sommeil prononcée, quoi. Parce que quand tu dors deux heures par jour pendant 3-4 jours, ben voilà, l'être humain est fait pour dormir, hein. Il est pas fait pour dormir 2 heures. Enfin non, c'est pas possible. Donc ça, effectivement, c'est des aventures qui se font, mais quand même à courte dose, hein, parce que voilà, physiquement, après, quand même, tu peux, il faut quand même une période de repos, quoi. après derrière. Voilà, 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 Richard.
Mon petit Raoul, hein, je vais t'embrasser bien cordialement. Je vais te laisser pour ta minute de solitude. Je vais te laisser pour ta minute de solitude. Tu te souviens la procédure habituelle, hein, tu sais. Tu fais ton truc, tu laisses la fenêtre ouverte, je m'occupe du reste. D'accord ?
Ok, ça marche.
Gros bisous et à très bientôt.
Gros bisous, à bientôt. Ouais, bah écoutez, pour cette minute de solitude, j'ai été, j'ai été peut-être un peu trop bavard, je sais pas. Mais voilà, si vous voulez, je sais que beaucoup, beaucoup d'entre vous vivent ce genre d'aventure. On sent ravi, vous en ressortez la plupart du temps ravi. Toujours est-il que sur ce type d'épreuve où on veut toujours aller chercher un peu plus loin, c'est toujours un peu plus de c'est un petit peu la poursuite de du dénivelé, celui qu'on a fait le plus, cette trace a fait combien de D+, enfin. En fait, ça, je pense qu'il faut, un petit peu revenir. Je pense qu'il faut un peu revenir là-dessus, parce que certes, il y a toujours plus. On peut faire toujours plus de dénivelé, mais il y a aussi la part de plaisir, hein, qu'il faut prendre dans ce type d'aventure. Pour Badlands, j'ai vraiment pris du plaisir. Malgré la difficulté qu'il y avait par moment, le dénivelé, mais j'ai aussi eu des moments compliqués et où j'avais pas envie forcément de lâcher, et où je me suis dit mais en fait pourquoi se faire mal comme ça, pourquoi aller dans de tels retranchements. Mais in fine, au bout du bout, tu te dis t'es super fier de toi. Enfin, moi j'étais super fier de moi, parce que je pensais pas que un jour on m'aurait dit tiens, tu vas faire 800 bornes de vélo avec dans telle zone, dans tel secteur en Europe. Et j'étais très content de découvrir cette partie européenne, cette zone d'Espagne que je connaissais très peu. Là vraiment, j'en ai pris plein les yeux voilà, merci aux organisateurs. Et si un jour vous avez l'occasion de faire cette course, si vous avez envie, vraiment, n'hésitez pas. À bientôt.